Dans sa lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies, la mission iranienne a condamné les propos haineux d'un sénateur américain et mis en garde contre l'aventurisme du régime israélien pour la paix et la sécurité dans la région. De tels propos haineux et répréhensibles donnent le feu vert au régime israélien pour commettre davantage d'actes terroristes contre les scientifiques nucléaires iraniens. Les États-Unis violent délibérément les lois internationales. La communauté internationale et le Conseil de sécurité en particulier doit fermement condamner ces actions provocatrices qui déstabilisent la région, a déclaré la mission iranienne à l'ONU. La République islamique se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires conformément au droit international pour répondre à de tels agissements, a-t-elle ajouté. Les scientifiques nucléaires iraniens ont à plusieurs reprises fait l'objet d'assassinats ciblés des agences d'espionnage occidentales et israéliennes. En juin 2012, l'Iran a annoncé que ses forces de renseignement avaient identifié et arrêté tous les éléments terroristes impliqués dans l'assassinat des scientifiques nucléaires du pays. Le 10 janvier 2012, un scientifique iranien et spécialiste du nucléaire de 32 ans, Mostafa Ahmadi Roshan, et son chauffeur ont été assassinés, marquant un cinquième acte terroriste en l'espace de 2 ans. En janvier 2010, un professeur de physique et des particules, Massoud Ali Mohammadi, qui enseigné à l'université de Téhéran et tué par l'explosion d'une moto piégée alors qu'il sortait de son domicile. Même procédé d'élimination contre Feridun Abbasi Davani, mais qui a échoué. Davani est devenu par la suite chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Son collègue Majid Shahriari n'a pas survécu à l'attentat. Le 23 juillet 2011, c'est un autre scientifique iranien, Dariush Rezaei Nejad, qui trouve la mort dans un autre attentat à la voiture piégée. Le 27 novembre 2020, le spécialiste nucléaire Mohsen Farizadeh est attaqué et tué par des terroristes dans la ville d'Absar, dans le département de Damovind, à 40 km à l'est de Téhéran. La Géorgie va immédiatement demander l'adhésion a lieu selon le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir en Géorgie a demandé l'adhésion de cette ex-république soviétique à l'UE. Cette annonce a été faite suite à la demande d'adhésion du président ukrainien Volodymyr Zelensky face à l'offensive russe dans son pays. Consécutivement à une demande de l'Ukraine en ce sens, la Géorgie va immédiatement demander son adhésion à l'Union européenne, a déclaré le parti au pouvoir de cette ex-république soviétique du Caucase qui entretient des relations délicates avec Moscou. Le président du parti rêve géorgien, Irakli Kobakhidze, a annoncé lors d'une conférence de presse la décision de faire acte de candidature immédiatement pour l'entrée dans l'UE, ajoutant que la Géorgie demandait à Bruxelles d'examiner urgemment cette demande et de conférer à la Géorgie le statut de candidat à l'entrée dans l'Union. Cette annonce fait suite à la demande expresse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays fait face à une offensive russe, d'une intégration de l'Ukraine dans l'UE par une procédure spéciale. Le président ukrainien a reçu l'appui du Parlement européen qui a adopté le 1er mars à une écrasante majorité une résolution condamnant l'agression russe contre l'Ukraine et appelant les institutions européennes à travailler pour l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'UE. Le gouvernement géorgien avait émis l'intention l'année dernière de présenter en 2024 la candidature du pays à l'entrée dans l'UE. La Géorgie, comme l'Ukraine, a signé un accord d'association avec l'Union européenne qui n'offre cependant aucune garantie d'intégration ultérieure. La Géorgie va immédiatement demander l'adhésion a lieu selon le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir en Géorgie a demandé l'adhésion de cette ex-république soviétique à l'UE. Cette annonce a été faite suite à la demande d'adhésion du président ukrainien Volodymyr Zelensky face à l'offensive russe dans son pays. Consécutivement à une demande de l'Ukraine en ce sens, la Géorgie va immédiatement demander son adhésion à l'Union européenne, a déclaré le parti au pouvoir de cette ex-république soviétique du Caucase qui entretient des relations délicates avec Moscou. Le président du parti rêve géorgien Irakli Kobakhidze a annoncé lors d'une conférence de presse la décision de faire acte de candidature immédiatement pour l'entrée dans l'UE, ajoutant que la Géorgie demandait à Bruxelles d'examiner urgemment cette demande et de conférer à la Géorgie le statut de candidat à l'entrée dans l'Union. Cette annonce fait suite à la demande expresse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays fait face à une offensive russe, d'une intégration de l'Ukraine dans l'UE par une procédure spéciale. Le président ukrainien a reçu l'appui du Parlement européen qui a adopté le 1er mars à une écrasante majorité, une résolution condamnant l'agression russe contre l'Ukraine et appelant les institutions européennes à travailler pour l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'UE. Le gouvernement géorgien avait émis l'intention l'année dernière de présenter en 2024 la candidature du pays à l'entrée dans l'UE. La Géorgie, comme l'Ukraine, a signé un accord d'association avec l'Union européenne qui n'offre cependant aucune garantie d'intégration ultérieure. La troisième guerre mondiale selon la Russie. Sergueï Lavrov a dit craindre qu'une troisième guerre mondiale ne soit placée sous le signe de l'arme nucléaire. Le chef de la diplomatie russe a mis Washington face à ses responsabilités dans un entretien à Al Jazeera. Alors que de nouvelles négociations entre la Russie et l'Ukraine sont attendues sous peu, Moscou a évoqué l'hypothèse d'un embrasement planétaire. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a ainsi mis l'accent sur le risque nucléaire inhérent à un conflit de grande ampleur dans un entretien à Al Jazeera. Le ministre a ajouté que Washington connaissait pertinemment les risques d'une telle escalade. Une troisième guerre mondiale serait nucléaire et dévastatrice, a expliqué le chef de la diplomatie russe à la chaîne Qatari. Dans ce contexte, Sergueï Lavrov a ajouté que Moscou ne permettait pas à l'Ukraine de se doter de l'arme nucléaire pouvant menacer le peuple russe. Moscou s'était déjà inquiété fin février des positions de Kiev qui avait déclaré et vouloir accéder au statut de puissance nucléaire. Des propos pris au sérieux par les autorités russes au regard du passé de l'Ukraine qui a hérité de certaines technologies nucléaires soviétiques. Fin février, Vladimir Poutine avait ainsi déclaré que la menace de Kiev de se doter de bombes nucléaires n'était pas une bavarde vide. L'Ukraine, toujours engagée dans la voie du nucléaire civil malgré la tragédie de Tchernobyl, possède également des stocks d'uranium qui pourraient lui permettre de créer des bombes sales, comme l'expliquait récemment à Sputnik l'analyste politique Vladimir Jaïrin. Sergueï Lavrov a par ailleurs affirmé que la Russie n'était pas isolée sur la scène internationale malgré les événements. Un langage déjà tenu par le Kremlin qui a insisté ce 28 février sur son partenariat avec la Chine. Le ministre a néanmoins admis qu'il ne s'attendait pas à ce que les sanctions anti-russes s'étendent jusque sphères culturelles et sportives. Nous étions prêts pour ces sanctions, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'elles ciblent des athlètes, des intellectuels, des artistes et des gens des médias, confie Sergueï Lavrov à Al Jazeera. Côté sport, l'équipe nationale de football russe a notamment été bannie de la prochaine Coupe du Monde alors qu'elle était encore à la lutte pour une qualification. Une mesure qualifiée de discriminatoire par la Fédération nationale de football russe. Le club de foot de Spartak Moscou a également été exclu de la Ligue Europa dont il devait jouer les huitièmes de finale face à Leipzig. Les équipes nationales russes ont aussi été déclarées indésirables dans les compétitions internationales de rugby, de tennis ou encore de hockey sur glace. Les sportifs russes ne pourront pas non plus participer aux compétitions d'athlétisme en 2022, même sous bannière neutre, a décidé la Fédération internationale d'athlétisme. Enfin, le monde de la culture a également été touché. Plusieurs chefs d'orchestre russes ont vu leurs concerts déprogrammés par de prestigieuses institutions comme la Scala de Milan ou le Carnegie Hall. Alors qu'on arrive au septième jour du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le bilan des pertes russes ont été déclarés. La Russie a rendu public le nombre de soldats russes et ukrainiens tués et blessés lors de l'opération spéciale qu'elle mène en Ukraine depuis le 24 février. Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odyssée pour accéder à notre site. Le nombre de victimes parmi les Russes impliqués dans l'opération militaire spéciale en Ukraine dépasse 2000, dont 498 militaires russes tués dans l'exercice de leurs fonctions et 1597 blessés, selon les chiffres relayés par le ministère russe de la Défense. En ce qui concerne les pertes parmi les nationalistes et militaires ukrainiens, elles s'élèvent à plus de 2870 tués et environ 3700 blessés. Selon les données confirmées, le nombre de militaires ukrainiens capturés s'élève à 572, indique le rapport. Les messages de certains médias faisant état de pertes incalculables des forces armées russes sont de la désinformation, a déclaré ce 2 mars au journaliste le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Je tiens à souligner une fois de plus que ni les conscrits, ni les cadets des établissements d'enseignement du ministère russe de la Défense ne sont impliqués dans l'opération spéciale. Les informations diffusées par de nombreux médias occidentaux et certains médias russes sur les prétendues pertes incalculables des Russes sont de la désinformation délibérée, a déclaré le général.